L'Éden de Satan numéro 65. Questions et réponses des ministres de l'Amérique du Sud du mois de septembre. Le 4 septembre 2022. Brian Kozurek, pasteur. Question numéro 1. Le révérend Livel souligne, dans son sermon Les deux esprits, l'existence de deux lumières dans Genèse. Pouvez-vous montrer quelle écriture se réfère au Fils de Dieu et laquelle à Lucifer? Savez-vous si, à un moment donné, le révérend Livel corrige cette position ou la maintient? Réponse 1. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire une correction ici. Le sermon s'intitule Les deux esprits, Marc 16. Mes frères Vénémi, désigne pas de lumière comme vous l'avez déclaré ici. Ce sermon n'a rien à voir avec deux soi-disant lumières dans le livre de la Genèse. Or il Esther fait mention de deux lumières dans le livre de la Genèse, mais une lumière parle de la naissance du Fils de Dieu. C'est Esther Genèse 1.3 telle que les citations de notre prophète, que je vous ai minutieusement présentées, déclare qu'il en Esther ainsi. J'y reviendrai dans un instant. 3 Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. La parole parlait Esther la semence originelle. Ou le Fils. C'était une naissance par la parole parlée. Pas différent de Genèse 1.26, 4 Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Saint Dieu appela la lumière jour, Hébreu, Yovm. Littéralement du lever au coucher du soleil. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Du lever au coucher du soleil. Maintenant, la lumière suivante dont il Esther question dans le livre de la Genèse Esther le soleil, et la lune Néhémie fait que refléter la lumière du soleil en l'absence du Fils. Puis les étoiles verset 14. Et n'oubliez que les étoiles sont aussi un symbole des fils. 14 Dieu dit, qu'il y ait des luminaires, ou lumières, au pluriel, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, 15 et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 Dieu fit les deux grands luminaires, ou lumières, le plus grand luminaire, ou lumière, pour présider au jour, et le plus petit luminaire, ou lumière, pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. 18 Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Maintenant, pour en revenir à Genèse 1.3, le prophète de Dieu Esther très précis sur le fait que ce verset parle de la naissance du Fils de Dieu, le Logos de Dieu, qui a été enfanté. Nous voyons cela dans Proverbe 8. Proverbe 8.22 L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. 23 J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. 24 Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. 25 Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. 26 Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. 27 Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. 28 Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. 29 Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. 30 J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, 31 juin sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Mais il n'y a pas d'endroit dans les Écritures qui parle de Satan, ou de Lucifer comme étant né, parce qu'il n'est pas né, il a été créé. Il n'y a qu'un seul passage qui parle du commencement de Lucifer et Sester dans Ézéchiel. Maintenant, frère Vénémy fait pas mention de deux lumières dans le livre de la Genèse. Si vous lisez ce qu'il a dit, et que vous l'avez, en quelque sorte, compris en dehors du contexte dans lequel il parlait, alors Sester juste vous en train de vous imaginer qu'il l'a dit. De plus, frère Vel dit, maintenant, Jeunemi dit pas que Sester exactement comme ça. Cela signifie donc qu'il dit, je n'en suis pas certain, parce que tout ce que je vois, Sester une seule lumière dans Genèse 1.3. Et cependant Lucifer Esther aussi appelé fils de l'aurore, ou fils de l'aube. Il n'y a donc pas d'endroit dans la Bible qui montre que Lucifer Esther créé, sauf dans Ézéchiel 28.14 où Dieu dit, tu étais un chérubin ou un, qui couvrait, et je t'avais établi, tel. Darby, cependant, il est Esther un jumeau, et il est Esther appelé fils, mais pas un fils par naissance mais un fils par création. Maintenant, nous le savons parce que Dieu a placé sa Bible dans l'univers et dans la constellation nous avons les Gémeaux, qui en espagnol Esther Gemelos, qui signifie les jumeaux. Or, la raison pour laquelle nous savons que Genèse 1.3 Esther le fils de Dieu, c'est Esther parce que William Branham, le prophète de Dieu, l'a dit. C'est Esther la seule raison pour laquelle nous pouvons le dire. C'est Esther parce que nous disons ce qu'un prophète confirmé nous a dit, que la lumière dont Genèse 1.3 était le logo qui était sorti de Dieu, il l'a appelée la petite lumière qui était la naissance du Fils de Dieu. Et cette lumière était la parole qui était la semence originelle. Ou le Fils. Point. Frère Branham nous dit que lorsque Dieu a donné naissance à Jésus, il y avait deux êtres impliqués, celui qui est Esther Dieu et celui qui est Esther le Fils de Dieu. Et il a dit que c'était au moment où cette petite lumière s'Esther avançait. De son sermon l'attitude qui est Esther Dieu, 15 août 50 paragraphe 18 frère Branham nous dit, là, il place la première Bible. Oh. Dans les temps anciens, ils observaient ces choses. Aujourd'hui, il a sa Bible écrite ici. Mais il l'a écrite dans les cieux, afin que l'homme en levant les yeux réalise que Jéhovah le Créateur vive au-dessus. Et puis je le vois, il a regardé ce. Je le vois parler à ce monde suspendu là comme un glaçon, ou quoi que ce fût, loin. Et il l'a déplacé ici. Je vois cette petite lumière sortir. Or, nous en avons deux maintenant. Le Père, et du Père Esther sortit la lumière, le Fils. Et je vois cette lumière se déplacer ici et rapprocher la terre du soleil pour la sécher. Et comment ça? Élever le niveau de l'eau, séparer la terre de l'eau, et ainsi de suite. Encore une fois, le prophète de Dieu dit dans son sermon question et réponse sur la Genèse COD 29 juillet 53 p. 12, paragraphe 30 SHP, maintenant, personne n'a vu le Père à aucun moment. Personne n'est mis peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Vous voyez? D'accord. Personne n'a vu le Père, mais le Fils unique, engendré du Père l'a déclaré, et Jean. Vous voyez, maintenant, mais remarquez maintenant, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a rien. Il semble n'aimer rien y avoir. Mais il y a là un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui couvrait tout l'espace en tout lieu et en tout temps. Il était d'éternité en éternité. Il est le commence de la création. C'était Dieu. Je n'ai émis voir rien. Je n'entends rien. Pas le mouvement d'un atome dans l'air. Rien. Pas d'air. Rien de rien. Mais pourtant Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, observons pendant quelques minutes, et au bout d'un moment, personne n'a vu cela. Maintenant, c'était le Père. C'était Dieu, le Père. P. 13, paragraphe 28 SHP, maintenant, remarquez. Puis, après un certain temps, je commence à voir une petite lumière sacrée commencer à se former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça. Vous n'aimez pouviez le voir que par des yeux spirituels maintenant, pendant que nous observons, toute l'église maintenant. Nous sommes debout sur une grande rampe, observons ce que Dieu fait. Et nous allons passer directement à cette question ici et vous verrez comment il la porte. Maintenant, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la prochaine chose que nous commençons à voir, par des yeux surnaturels, nous voyons une petite lumière blanche se former là. Qu'est-ce que c'est-ce? Cela a été appelé, par les lecteurs de la Bible, le logo, ou loin, ou l'onction, ou comme j'allais dire, la partie de Dieu qui commença à se développer en quelque chose afin que les êtres humains puissent avoir une sorte d'idée de ce que c'était. C'était une petite lumière en mouvement. C'était la parole de Dieu. Maintenant, Dieu a lui-même donné naissance à ce fils qui était avant même qu'il y ait un atome ou de l'air pour former un atome. C'était, vous voyez, Jésus a dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez, bien en arrière. P. 14, paragraphe 32 SHP. Or, dans Saint Jean 1, il dit, au commencement était la parole. Quand le premier, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et habitée parmi nous. Dieu se déployant jusqu'à devenir un être humain. Maintenant, regardez comment il l'a fait. Maintenant, jadis. Alors, lorsque ce petit halo est apparu. Maintenant, nous n'y voyons encore rien. Mais juste avec des yeux surnaturels, nous voyons un halo se tenant là. Maintenant, c'est le Fils de Dieu, le logo. Maintenant, je le vois jouer comme un petit enfant devant la porte du Père, avec toute l'éternité. Vous voyez? Maintenant, je ne sais pas comment vous pouvez lire ces citations du prophète de Dieu et appliquer ce qu'il dit à une autre écriture que Genèse 1.3. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire et, en même temps, diviser correctement la parole de vérité. Et puis dans Genèse 1.15-17, on nous dit comment Dieu a créé le reste de la création. Et puis, quand nous arrivons à Genèse 1.26, on nous décrit la façon dont Dieu dit à son fils premier-né, faisons l'homme à notre image. Et bien sûr, il parlait à son fils, pas seulement parce qu'un prophète confirmé à notre époque nous l'a dit, mais aussi parce que l'apôtre Paul, qui était également confirmé, nous a dit que Jésus-Christ était l'être lumière et l'image exacte du Père. Hébreux 1.3 La Bible amplifiée le Fils est le rayonnement et l'unique expression de la gloire de Dieu, reflétant la gloire de la Shekinah de Dieu, l'être lumière, la lumière brillante du divin, et la représentation exacte et l'empreinte parfaite de l'essence de son Père, et soutenant, maintenant et propulsant toute chose, tout l'univers physique et spirituel, par sa parole puissante, amenant l'univers à son but prédéterminé. quand il, lui-même et aucun autre, avait, en s'offrant sur la croix en sacrifice pour le péché, accompli la purification des péchés et établi notre libération de la culpabilité. Il s'assit, révélant son œuvre achevée, à la droite de la majesté d'en haut, révélant son autorité divine. 4 étant devenu d'autant plus supérieur aux anges, puisqu'il a hérité d'un nom plus excellent et glorieux qu'eux, qui est-ce celui de fils, le nom au-dessus de tous les noms. Ainsi, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il n'est ni pouvait y en avoir qu'un seul, qui était à l'image de Dieu à ce moment-là, et ce devait être le Fils de Dieu préincarné. Les anges sont des, être créés et pas à l'image de Dieu. Il n'est ni pouvait y avoir d'autre réponse que celle qu'il parlait à son Fils. Il a ensuite donné naissance à d'autres fils, qui doivent aussi être à l'image même de Dieu. À l'image du Père et bien sûr, du Fils qui est à l'image exacte de l'être de Dieu. Et c'est ce que le prophète confirmé de Dieu nous dit dans son sermon question et réponse sur la Genèse. K sur Genesis COD 53-0729-P-18, paragraphe 43 SHP, il a rassemblé toutes ces choses et a fait toutes les autres choses, toutes les vies animales, les oiseaux, les abeilles, les singes, et quoi que ce fût, il les a tous mis ici sur terre. Et puis il a alors posé cette question. Faisons, qui? Le Père et Fils, l'homme à notre image. Maintenant, si un homme était fait quelque chose de semblable à cette petite lumière sacrée, ou quelque chose comme ça, il n'est ni pouvait pas être vu, ce qui est un être spirituel. Il s'est manifesté ou s'est déployé un peu plus pour faire une trinité de lui-même par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et voilà Dieu, qui s'est alors déployé lui-même, en faisant de l'homme, qui était son Fils, sa progéniture, un homme à notre image, il était un être surnaturel, et qu'il domine sur le bétail des champs. Et ainsi de suite. Maintenant, l'homme conduisait le bétail et tout. Tout comme le Saint-Esprit conduit un véritable croyant aujourd'hui. La voix de Dieu là-bas. La voix de l'homme, plutôt, parlait et disait. Appelez le bétail par ici. Appelez les brebis à ce pâturage. Appelez les poissons à cette eau. Vous voyez, il avait la domination. Tout lui obéissait. Par conséquent, lorsque frère Branham a prêché son sermon la parole parlait Esther la semence originelle. C'est Esther à cela qu'il faisait allusion. J'ai prêché de son 68 sermon de ce sermon de frère Branham. Et si la parole parlait Esther la semence originelle, cela signifie qu'elle est la porte aux originelles de la vie, parce que c'est Esther ce qu'Esther une semence, une porteuse de vie. Et si le Fils de Dieu était la semence originelle, cela signifie qu'il était le Fils originel. Et comme Paul nous l'a dit dans Romains 8.29 que Jésus-Christ est le premier-né d'une vaste famille de fils, et nous sommes préordonnés à être semblables à son image. Cela signifie qu'il est le Fils originel, ce qui ferait de lui le Fils premier-né. Car c'est Esther ce qu'Esther un fils. Il est Esther la semence de son père. Et une semence Esther porteuse de vie. Par conséquent, si c'est Esther la semence originelle, cela signifie qu'il est Esther la première semence ou le premier porteur de vie. Et la première fois que Dieu a parlé dans la Genèse, nous voyons sortir la lumière dont William Branham lui-même a dit, à ma entreprise, que c'était le Fils de Dieu. William Branham lui-même a appelé cette première lumière dans Genèse 1.3 le logo, qui est la parole de Dieu. Il dit qu'elle est sortie de Dieu quand Dieu a parlé, et il l'a appelé le Fils de Dieu. Il l'appelle aussi la petite lumière ou halo qui est sortie de Dieu avant la création. Mais il est très clair que c'est le Fils de Dieu, ce qui signifie qu'il est né. Maintenant, avec cela, Revenons à ce que Frervel disait. Je vous dis simplement qu'il y a une possibilité. Et je vous le dis. Parce que je vous ramène au tout début. Donc, au tout début, ce sont des jumeaux. L'un Esther un fils de Dieu, l'un Esther un fils de l'aurore. Maintenant, le mot aurore signifie aube. A-U-B-E. Le lever du soleil. Alors, n'est-il pas possible qu'après que cette parole soit sortie, que la lumière soit, et qu'il eut la lumière, que cette personne était la première création qui était établie là? Maintenant, la raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Maintenant, remarquez, cette question semble dire que la personne pense peut-être que Frervel a dit que la lumière dans Genèse 1.3 est à Lucifer. Mais pour dire cela, Frervel devrait être en contradiction avec un prophète confirmé. Et si vous comprenez le ministère de Frervel en tant que docteur, il a désigné la confirmation 85% du temps où il enseignait. Je le sais parce que c'est ainsi qu'il a décrit son ministère. Remarquez que Frervel souligne que Lucifer est un fils, mais pas un fils né, c'est un fils créé. Et puisqu'il est appelé fils de l'aurore ou du matin, alors il devait venir après l'étoile du matin, qui est à ce logo, qui est sorti de Dieu. Sinon il n'est mis, serait pas appelé fils de l'aurore du matin. Si les deux ont été enfantés en même temps, alors l'un ennemi pourrait pas être le fils de l'autre. Et si Lucifer était la lumière de Genèse 1.3, alors il serait né de Dieu. Car Dieu a dit, que la lumière soit. Et tous les enfants de Dieu sont nés par la parole parlée. Ainsi, Frervel était très définitif que Lucifer n'était pas la lumière de Genèse 1.3. Et comme il l'a aussi dit, il n'était pas certain du moment où cette fausse lumière, Lucifer, Esther apparut. Et il est impossible que Frervel nous ait dit que Genèse 1.3 Esther le fils de l'aurore. La lumière dont Genèse 1.3 Esther appelait l'étoile du matin, et Jésus a revendiqué ce titre pour lui-même dans Apocalypse 22.16 moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et il doit y avoir l'étoile du matin, avant que vous puissiez avoir un fils du matin ou de l'aurore. Vous voyez donc que Lucifer n'a pas été créé avant la naissance du Fils de Dieu. Il a été créé après la naissance de l'étoile du matin, qui est à Jésus-Christ, cette petite lumière que Dieu a mis au monde par la parole dans Genèse 1.3, et dont frère Branham a dit qu'elle était le logo, une partie de Dieu, qui est venue de Dieu. Et comme l'a dit frère Vell, maintenant, le mot aurore signifie aube. A-U-B-E. Le lever du soleil. Et c'est pourquoi Dieu a appelé cette lumière aube. Le mot jour en hébreu est youn et signifie de lever au coucher du soleil. Genèse 1.5 Dieu appela la lumière jour, et Pierre l'appela l'étoile du jour. De Pierre 1.19 Et nous tenons pour d'autant plus certaines les paroles prophétiques, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe ou lumière qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour ou l'aube du jour vienne apparaître et que l'étoile du matin ou du jour se lève dans vos cœurs. Permettez-moi de vous lire ce que vous avez cité, pensant que c'est ce que Frervel disait, pour que vous puissiez voir ici qu'il n'est mis, dit pas ce que dit votre question. Révérend Livel, Sermon les deux esprits, Marc 16, 9 janvier 1997, 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore. Maintenant, ce mot fils en hébreu est le même mot pour fils, et fieles, que tous les fils, point final. Maintenant, les témoins de Jéhovah pensent que Jésus est un fils de Dieu par création. Ce n'est pas le cas. Il est le Fils de Dieu par naissance, et Dieu lui a donné naissance, parce que ce Fils était une partie de Dieu, de même que chaque bébé quand il sort dans la chair est la partie visible de la chair de la femme d'où il sort, pas celle de l'homme, bien que ce soit dans les gènes, et que cela forme ce qui était dans l'utérus, mais c'est la femme qui fournit tout le reste là-dedans que cet esprit à l'intérieur, ou cette âme travaille à l'intérieur, et le fait sortir. Très bien. Toi fils de l'aurore. 25. Or, Lucifer était un fils, mais pas un fils par naissance. Maintenant, le mot fils signifie, selon ce que j'ai lu dans la définition, c'est le fondateur d'une famille. Par conséquent, Jésus est le fondateur de la famille, et Satan est le fondateur d'une famille. Maintenant, Satan est un fondateur par le fait de la création, et donc c'est ce qu'il était loin, très loin jadis. Et c'est à ce moment-là que je dis qu'il n'y avait peut-être pas d'autre création que les cieux, et les archanges, les anges, et une forme d'adoration là-haut, puis après cela. Et puis vous passez à la page 11-23e Jésus entrant en scène en tant que le créateur de la terre et de tout le reste, aura pu le faire. Maintenant, je n'ai dit pas que c'est exactement comme ça. Je vous dis simplement qu'il y a une possibilité, et je vous le dis, parce que je vous ramène au tout début. Donc, au tout début, ce sont des jumeaux. L'un est un fils de Dieu, l'un est un fils de l'aurore. Or, le mot aurore signifie aube. A-U-B-E. Le lever du soleil. Alors, Néhémie serait-il pas possible qu'après que cette parole soit sortie, que la lumière soit, et que la lumière fût, que cette personne a été la première création qui a été établie là? Maintenant, comprenez bien ces paroles ici, parce que Frevel était un enseignant très définitif. Il a dit, après que cette parole soit sortie, que la lumière soit, et que la lumière fût. Puis frère Vell nous suggère serait-il possible que Lucifer ait été alors la première création après cette naissance du Fils de Dieu? Donc, il n'est dit pas que la naissance du Logo Esther, la première création, qui était Lucifer. Sester extrapolé beaucoup trop à partir de ce qu'il a dit. Il fait d'abord une déclaration définitive, qu'après que cette parole soit sortie, que la lumière soit, et la lumière fut, puis après cette naissance, que cette personne était la première création qui a été établie là. Maintenant, rappelez-vous, il nous a simplement dit, maintenant, je n'ai dit pas que c'est exactement comme ça. Je vous dis juste qu'il y a une possibilité, et pourquoi Néhémie serait-il pas certain? Pourquoi dirait-il, je n'ai dit pas que c'est exactement comme ça? Je vais vous dire pourquoi il a dit cela. Parce qu'il n'y a pas d'écriture pour la création de Lucifer en particulier. Cependant, nous savons que notre prophète l'appelle le jumeau de Michael ou Christ. Mais vous savez, les jumeaux Néhémie naissent jamais exactement au même moment. Habituellement, il y a une période de temps, peut-être des minutes, des heures voire même des jours entre leur venue au monde. Et personne Néhémie sait exactement quand Lucifer a été créé, cependant nous savons qu'il a dû être le premier ange créé par Dieu, et en fait c'est exactement ce que frère Branham nous dit dans son sermon question et réponse COD 28 juin 59 soir P, 41 maintenant, allons dans le Nouveau Testament, dans Luc 10.18. Juste une minute, et voyons ce que Jésus a dit. Dans le livre de Luc, vous qui avez vos Bibles maintenant, qui essayez de suivre ces questions, Luc 10.18, et il leur dit. C'est Jésus qui parle. J'ai vu Satan, comme un éclair, tombé du ciel. Vous voyez, Satan était l'archange originel de Dieu. Il demeurait autrefois au ciel. Il était autrefois la personne la plus importante dans les cieux en dehors de Dieu. Il était le bras droit de Dieu pour la communion, et dans son cœur, il est devenu prétentieux. Donc, si Satan était l'archange originel, cela signifie qu'il était le premier ange créé. Maintenant, revenons à la déclaration de Fr. Vel. Maintenant, la raison pour laquelle je dis qu'il y a une différence entre les deux. Quelqu'un voudrait dire que Jésus est un frère du diable. Et les restitutionnalistes croient que Jésus et le diable descendront un jour les rues de la gloire main dans la main. C'est un mensonge du tréfonds de l'enfer. Ils n'aiment et le feront pas. Et je vais être là pour veiller à que ce n'aiment soit pas fait. Vous savez que je devais ajouter cela là-dedans. Parce que regardez, dans mon cœur, il n'y a rien qui croirait cela. Pas même pendant 15 minutes. Il n'aimait pourrait rien y avoir. Durant toute ma vie, je vais aimer Dieu et lui être obéissant. Et ce type ici qui est provocateur, veut détruire le campement sacré, va-t-il y marcher? Est-ce que je veux faire partie de lui et lui de moi? Oh là là! Non, 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 il n'y a rien là qui pourrait croire cela. Qui croirait cela? Frère Branham l'a nié, alors cela s'occupe de cela. C'est ce que Jimmy Jones croyait aussi. D'ailleurs, vous en avez donc une bonne idée. 26 Toi fils de l'aurore. Vous avez donc deux fils. L'un est le fils de naissance, l'autre est un fils de création, à deux moments complètement différents. Par conséquent, l'un appartient à l'éternité, et l'autre n'appartient pas à l'éternité. Aucun des anges n'appartient à l'éternité. Les anges et les archanges, et les différents chérubins, pour tout ce que j'en sais, sont tombés. Je sais que les anges sont tombés. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très définitif que la naissance du Fils de Dieu et la création du Fils de l'aurore ont eu lieu à deux moments différents, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont représentés dans la Bible comme des jumeaux. Cain et Abel n'aimés sont pas nés en même temps. Cela aurait pu être à des jours d'écart pour tout ce que nous en savons. Esaü et Jacob sont nés proches l'un de l'autre, mais l'un est né avant l'autre, et c'est ce pourquoi ils ont lutté dans l'utérus pour obtenir ce droit de naissance. C'est pourquoi on nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit dit le Seigneur. Esaü était plus puissant et plus fort que Jacob, et donc il a écarté Jacob et est venu réclamer le droit d'aînesse. Mais Dieu haïssait Esaü avant même sa naissance, et aimait Jacob, et donc ce n'est ni par la force, ni par la puissance, que vous obtenez le droit d'aînesse, mais par mon esprit dit le Seigneur. Je pense qu'il se peut que vous ayez maintenant une meilleure compréhension de ce verset de la Bible. Mais ce jumeau dont parle frère Val n'est pas de naissance, ni une deuxième. Il dit, l'un est né et l'autre a été créé et c'était à deux moments complètement différents. Et ce n'est que logique, parce que l'un devait naître avant afin de pouvoir produire l'autre dans la création. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit dans Hébreux 1.1 de Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le ou les mondes, La Bible amplifiée le dit ainsi, de nous a parlé en ces derniers jours, pour finalité, en la personne de celui qui est par son caractère et sa nature son fils, à savoir Jésus, qu'il a nommé héritier et propriétaire légitime de toutes choses, par qui aussi il a créé l'univers qui est l'univers en tant que continuum espace-temps matière. La Bible est large et dit, Demain maintenant, en ces derniers jours, Dieu nous a parlé par l'intermédiaire de son Fils. Dieu a choisi, désigné son Fils pour être possesseur, héritier, de toutes choses, et par lui il a fait le monde, l'univers, les âges, comprenant à la fois l'espace et le temps, et cela nous renvoie à Jean 1:2-4. Le même était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pendant que nous y sommes, voyons aussi dans Colossiens ce que l'apôtre Paul dit également du Fils de Dieu, le Logos de Dieu, qui est terre sortie de Dieu. 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est terre avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Voilà pour les gens qui essaient de comparer William Branham au Fils premier-né de Dieu. La plénitude de la divinité demeurait dans le Fils premier-né, et Paul dit dans l'Épître aux Hébreux et aux Colossiens que le Fils premier-né était l'agent que Dieu a utilisé dans la création de toutes choses. Alors, il n'y a pas de comparaison. À part que Dieu a permis à William Branham de montrer où il voulait que Dieu place les trois écuries créées. C'est pourquoi je répète ce qui Frère Well nous a toujours enseigné. Ôtez vos yeux du vase et fixez vos yeux sur le Dieu qui utilise le vase. Question numéro 2. Pouvez-vous, s'il vous plaît, clarifier la différence entre le mot sonship, filiation en français, note du trad, et le mot son, fils en français, note du trad? Je pense qu'il est très important de clarifier cela pour le bénéfice des croyants hispanophones, parce que dans les traductions espagnoles des messages du prophète, le mot sonship, filiation est traduit par son fils. Et quand le prophète dit, je ne m'y crois pas en une filiation éternelle, en espagnol, il est dit, je ne m'y crois pas en un fils éternel. Les unitaires utilisent cela pour dire qu'il n'y a pas de fils parce qu'ils disent, il n'y a pas de fils éternel. Réponse à la question numéro 2. Mais ils oublient que les fils ont des commencements. Comment pouvez-vous avoir quelque chose d'éternel qui a eu un commencement? Et c'est ce que William Branham a pris la peine de souligner. Franchement, nous ne devrions pas nous préoccuper de ce que les unitaires où les trinitaires ont à dire. Nous savons que, selon le prophète confirmé de Dieu, les uns ont tout autant tort que les autres. Mais le mot sonship esther en fait deux mots, le substantif son qui décrit la position de la personne, et le suffixe ship qui signifie simplement l'état ou la qualité d'être. Mis ensemble, le suffixe ship avec le substantif son, fils, forme le mot sonship, qui signifie l'état ou la qualité d'être un fils. Le mot anglais sonship se traduit en espagnol par filiation, qui se retraduit en anglais par filiation et cela signifie le fait d'être l'enfant d'un certain parent. Les descendances comme si venant d'un parent, l'action de sortir d'une source. Mais ce mot n'est pas assez spécifique, car il n'est mis par le pas du genre du fils, mais plutôt de manière générique d'un enfant. Le genre n'est pas spécifié. Et donc filiation n'est pas assez spécifique, car il y a une grande différence entre un fils et une fille, quand il s'agit du droit d'aînesse. Donc, le meilleur mot espagnol à utiliser Némi serait pas un mot mais l'allocution suivante. El estado qualidad de San Hijos Esther, ce que signifie le mot sonship. L'état ou la qualité d'être un fils. Question 3. Tiré ici au Pérou, en raison d'un manque de contrôle gouvernemental. Certaines personnes qui refusent le vaccin Covid peuvent obtenir le carnet de vaccination de manière frauduleuse en enfreignant les lois en payant une certaine somme d'argent aux représentants du gouvernement. Cela a également été fait par plusieurs croyants de la doctrine du message, qui n'ont pas été vaccinés, mais qui ont obtenu leur carnet de vaccination de manière frauduleuse afin de continuer à travailler ou à entrer dans certains établissements tels que les supermarchés, les banques, etc. Que pensez-vous de ce comportement de certains croyants de la doctrine du message? Quand Jésus a dit, « Rendez à César ce qui est à César », il a aussi dit « Et à Dieu ce qui est à Dieu ». Puisque nos noms sont écrits dans la paume de la main de Dieu, alors nous appartenons à Dieu et non à l'État. Ésaïe 49.16 Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Darby, Jean 10.28 Je leur donne la vie éternelle, et ils n'y périront jamais, et personne n'y les ravira de ma main. Nous n'appartenons ni à César, ni à un gouvernement. Nous sommes les enfants de Dieu et un jour nous aurons le gouvernement sur le dos. Maintenant, rappelez-vous, toutes ces choses sont là simplement pour nous tester, et Dieu vous observe pour voir ce que vous en faites. Nous pouvons examiner l'histoire des enfants de Dieu et voir comment Dieu a permis au gouvernement de tester ses enfants, puis nous avons vu comment ils ont agi sous de telles épreuves et tests. Nous avons Job. Nous avons Daniel. Nous avons Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons Joseph et d'autres qui ont fait confiance à Dieu pour la réponse et ont même défié les ordres du roi. Mais pour chacun d'eux, Dieu a veillé sur la voie de ses justes d'une participation active. Dieu les a tous délivrés. Psaume 1.6 nous dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. Ce verbe connaître Esther, le mot hébreu yadaël signifie veiller d'une participation active, mais la voie des méchants périra. Et le verbe périr Esther, le mot hébreu obad, et signifie être livré à soi-même. Je connais des frères en Australie qui ont fait confiance à Dieu. Ces deux frères ont perdu leur emploi. Mais l'un a reçu un emploi d'un concurrent de sa première entreprise et il a commencé à travailler dès le lendemain après avoir été licencié. Donc il n'a jamais manqué un seul jour de travail, ni un chèque de paie. Et l'autre frère a pu joindre les deux bouts en enchaînant des emplois à temps partiel jusqu'à ce que son patron soit en mesure de le réembaucher avec l'ajout d'une voiture de société. Le même salaire et beaucoup moins de travail. De même, une sœur qui est médecin en Angleterre a été informée de prendre le vaccin ou elle serait licenciée. Elle avait jusqu'à une certaine date pour le faire. Je lui ai dit de tenir bon aussi longtemps qu'elle le peut et Dieu lui viendra en aide. Mais je lui ai dit que Dieu permet toujours à votre épreuve d'aller jusqu'à la dernière minute pour voir votre réaction. Il veut voir votre foi en action. La veille de sa date de licenciement, le premier ministre anglais a levé les sanctions et elle a pu continuer à travailler sans être licenciée. Elle n'a jamais manqué une minute de travail. Alors la réponse, mes frères, Esther, que vous pouvez soit faire confiance à votre tendre père qui est Esther, le créateur de toutes choses, y compris de vos revenus, soit vous pouvez faire confiance à vos propres capacités. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand vous choisissez ce dernier, vous finirez comme celui dans la Bible qui a subi l'épreuve de la faim, et qui allait en mourir, pensa-t-il. La Bible nous dit, Ésaü, pour un mais, méprisa son droit d'aînesse. Et Dieu l'a haï pour cela. La Bible nous dit qu'au temps de la faim, ce sera des temps d'épreuve et de mise à l'épreuve. Nous sommes au temps de mise à l'épreuve et nous le serons jusqu'à la saison de la résurrection. Et Dieu vous observe pour voir ce que vous allez faire. D'essayer de régler les choses par vous-même, disant à Dieu que je n'ai pas besoin de ton aide. Et vous récolterez ce que vous semez. N'oubliez jamais que tant que vous êtes dans ce corps, vous récolterez ce que vous semez. Et si vous êtes pris à utiliser des documents frauduleux, vous risquez de vous retrouver en prison et vous n'aurez pas votre mot à dire sur le vaccin. Je préfère donc rester avec ma foi en Dieu et n'ai jamais succombé à la chair. Quand les enfants de Dieu à Goshen ont vu toutes les plaies frapper l'Égypte, ils ont fait confiance à la parole de Dieu et Dieu leur est revenu en aide à travers toutes les plaies. 1 Pierre 1:6-7 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cela nous dit donc que les épreuves aboutiront à ce que nous recevions la gloire, qui est la doxa de Dieu. Et c'est lors de l'apparition. 8 Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Doxa. Votre joie se fonde sur cette doxa. 9 Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi ou révélation. Psaume 26.2 Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Psaume 139.23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Jacques 1:2-4 De mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. 3 Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Dieu, à travers chaque âge, a éprouvé l'homme. Il a éprouvé à observer son propre fils pour voir comment il gérerait l'épreuve de la parole. Et nous savons que chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé et testé. Mais nous constatons aussi que le test a pour but de nous approuver. Le but n'est pas de nous désapprouver, mais de nous approuver. De nous exhiber. Non pas que nous ayons quelque chose en nous-mêmes qui mérite quoi que ce soit, mais le fiestère que nous ressemblons à notre Père, pour ainsi dire, et Dieu aime juste exhiber ses enfants. 1 Pierre 4:12-13 Bien-aimés, n'ayez soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire, doxa, apparaîtra. C'est exactement ce que Dieu a fait à l'époque de Job. Dieu a mis Job à l'épreuve parce que Dieu savait ce que Job ferait. Vous n'aimez testez pas vos enfants pour l'algèbre s'ils n'ont même pas encore appris leur ABC. Vous leur enseignez leur ABC, puis vous progressez vers des choses plus élevées. Et donc quand vous êtes testé, vous devriez savoir cette chose, Dieu a trouvé la faveur en vous. Ou vous avez trouvé faveur à ses yeux, et il se vante simplement de ses enfants. 1 Pierre 1:3-7 C'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, doxa et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le but du test est donc de vous amener à la doxa de Dieu. Et vous êtes ordonné à y être semblable. Vu est la dernière saison sans laquelle vous devez vous réjouir constamment d'une joie qui s'exprime dans une exubérance triomphante. Bien que pendant un peu de temps, si, par hasard, besoin fut, que vous ayez été attristé au milieu de nombreuses et différentes sortes d'épreuves afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée dans le but d'être approuvée, en sorte que l'approbation, étant beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, même si l'or doit être éprouvé par l'épreuve de feu, puisse être obtenu après un examen minutieux pour aboutir à la louange, à l'honneur et à la gloire au moment de la révélation de Jésus-Christ. Nous voyons donc que Dieu n'aime fait que nous tester ou nous mettre à l'épreuve dans le but, à l'esprit, que nous soyons éprouvés. Vous n'avez mis donné pas un examen d'entrée à l'université à votre élève de première année primaire, vous lui donnez un test d'équivalence de la première année. Quand il le passe, vous dites, monte plus haut. Il passe ensuite en deuxième année. Corinthiens 10.13 Aucune tentation n'est mise vous Esther survenue, qui n'a été humaine. Autrement dit, il y a certaines sortes d'épreuves et de tentations que nous recevons juste à cause de notre nature humaine. Mais la clé Esther la chose qu'il dit ensuite. Et Dieu, qui est Esther fidèle, Néhémie permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce mot tenté ou testé, ici Esther un mot grec. Perazo qui signifie, éprouver, ou mettre à l'épreuve ou faire un test dans le but de vérifier la qualité de la personne, ou ce qu'elle pense ou comment elle réagit pendant l'épreuve. Nous voyons donc ici que Dieu a intentionnellement une façon ou une méthode par laquelle il s'assure des progrès qu'il fait en notre faveur. Pour le dire en de meilleurs termes, Dieu a tout sous son contrôle. Il utilise des épreuves pour se donner des feedbacks et pour nous donner des feedbacks sur notre croissance spirituelle. Tout comme nous le faisons avec nos enfants. Nous brandissons un mètre ruban pour mesurer la taille de nos enfants, pour savoir de combien ils ont grandi, et nous leur faisons sautiller et sauter pour mesurer leur croissance physique et leur force musculaire. Nous leur enseignons des matières et nous les testons dans ces matières pour voir leur progrès. Et puisque Dieu est notre Père, pourquoi devrions-nous être surpris lorsque nous sommes nous-mêmes mis à l'épreuve? Un Pierre nous dit que nous devrions considérer que c'est une grande joie lorsque nous sommes testés parce que nous savons que nous ne pouvons pas échouer au test. Et d'ailleurs, le test est donné parce que notre maître et tuteur, le Saint-Esprit de Dieu, croit que nous sommes prêts à monter un peu plus haut. Tout comme vos examens de fin d'études chaque année. Job 1-12 Ah, il y avait dans le pays d'un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, parfait et droit. Il craignait Dieu, et se détournait du mal acquis. De lui naquit 7 fils et 3 filles. 3 il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. 4 ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. 5 et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'était ainsi que Job avait coutume d'agir. 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Si Esther un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal acquis. 9 Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Dit Néhémie l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui Esther à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. 11 Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. 12 L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, Néhémie porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Remarquez comment Dieu se vante de Job, son enfant. Il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? L'as-tu remarqué ?» Maintenant, le verbe « remarquer » signifie, « As-tu pris mentalement une note attentive de toi-même ? As-tu pris note de cela afin que tu puisses mieux le comprendre ?» Et bien sûr, Satan n'admet pas la défaite devant la vantardise de Dieu à propos de son enfant Job. Alors il dit, « Ave, oui, mais l'ennemi ne te sert pas pour rien. Tu lui donnes et tu le protèges, et veilles sur lui et tu as même mis une haie protectrice tout autour de lui, alors qu'ennemi ne te craindrait pas avec ce genre de réussite. » Ensuite, nous voyons que Job était soumis à de nombreuses épreuves, en une fois, infligées par Satan, mais que Dieu a permis. Et encore une fois, nous voyons Dieu se vanter de son fils Job au chapitre 2. Job 2.1-10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. De l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal acquis. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. 5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement, épargne sa vie. 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, et meurt. 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous n'y recevrions pas aussi le mal acquis. En tout cela Job n'y pécha point par ses lèvres. Or, les épreuves deviennent encore plus personnelles, mais Job continue de craindre Dieu. Satan utilise même sa femme pour le critiquer, mais il garde la tête froide. Et donc nous voyons que les amis de Job arrivaient le critiquent aussi. Avez-vous déjà enduré une épreuve où vous avez senti que tout ce qui pouvait mal acquis tourner, a mal acquis tourner? Et puis pour ajouter à votre détresse, votre mari ou votre femme vous critique aussi. Et puis en plus de cela, vos amis se joignent à la critique. C'est à ce moment-là que vous avez l'impression d'être tout seul au monde sans personne pour vous comprendre. Mais rassurez-vous. Dieu vous comprend et le but même de ce genre d'épreuve est de vous faire savoir qu'il vous comprend certainement. Et il utilise simplement le test ou l'épreuve pour vous dire de monter plus haut. Examinons un autre de ses fils. Son fils unique, Jésus. Hébreux 5.8-9. A appris lui bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, Esther est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, châtiment, punition, égal formé, éduqué, instruire Éphésiens 6.4 et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et ce mot corriger égale discipliner, Hébreux 12.1-6 nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, deux ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous n'ayez mis vous lassiez point, l'âme découragée. 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous était adressée comme à des fils, mon fils. Néhémie méprise pas le châtiment du Seigneur, et Néhémie perd pas courage lorsqu'il te reprend. 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu a envoyé son Fils dans ce monde et l'a testé et mis à l'épreuve. Mais remarquez que les épreuves Néhémie sont pas venues quand il était dans ses jeunes années. Vous n'entendez rien de lui de 12 à 30 ans. Mais quand il a appris l'obéissance, cette obéissance est intervenue par la souffrance. Nous n'entendons pas parler d'un Jésus qui souffre de 12 à 30 ans. Mais alors qu'il a appris et croissait en grâce, Dieu l'a mis à l'épreuve tout comme il nous teste, vous et moi. Nous découvrons que Jésus a reçu le Saint-Esprit dans l'eau lorsque Jean l'a baptisé. Les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et est rentré en Jésus. Puis il s'est avancé dans un puissant ministère montrant aux gens ce qui était descendu sur terre et qui était dans ces personnes. Mais si vous remarquez, quand Dieu en avait fini avec ce ministère, quand son message avait été rejeté, et que le messager semblait être vaincu, c'est à ce moment-là que Dieu est intervenu pour finir l'examen pour lui. Le messager du soir 11 janvier 63 p. 113, paragraphe 258 SHP, remarquez quand le message est rejeté et que le messager semble être vaincu, c'est à ce moment-là que Dieu entre en scène. Son message est terminé. Dans le jardin, Dieu a abandonné Jésus pour qu'il souffre tout seul. Il a demandé seulement à ses proches amis de venir prier avec lui en sachant très bien le sort qui l'attendait le lendemain. Mais cependant ses amis Néhémie pouvaient même pas le réconforter. Ils n'ont pas pu veiller avec lui. Il n'arrêtait pas de s'endormir. Alors il s'est agenouillé là tout seul. Il est allé affronter l'épreuve tout seul. Il est passé par la flagellation tout seul. Il est allé à la croix tout seul. Il semblait qu'il avait été abandonné par Dieu et par ses amis. Et il dit sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cependant, Dieu lui a permis de souffrir sur cette croix, mais Néhémie l'avait pas abandonné, car Dieu l'a ressuscité et l'a placé sur son trône. Il a réussi l'examen et a obtenu son diplôme en ce beau matin de la résurrection. Matthieu 26.36-50. 36 là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » 37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 38 Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, et veillez avec moi. » 39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 40 Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. » 41 Veillez et priez, afin que vous n'ayez mis tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 42 Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » 43 Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. 44 il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 45 puis il alla vers ses disciples, et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. » Voici, le restèrent proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. 46 Levez-vous. Allons. Voici, celui qui me livre s'approche. 47 Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. 48 Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, s'estère à lui, saisissez-le. 49 Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Et il le baisa. 50 Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Il était entouré d'amis et cependant, il était tout seul. Il a fait face à ses épreuves tout seul. Et vous savez quoi? Les épreuves ont été dures et violentes pendant quelques jours, puis quand il a semblé que tout était fini, Dieu a dit, « Mon fils, tu as passé ton test, monte plus haut, et il m'a ressuscité de la tombe, et ce matin, il est assis dans les lieux célestes vivants à toujours pour intercéder pour notre confession. Et il vous dit monte plus haut, vous avez réussi votre examen. Vous avez réussi votre test. Prions, Père, nous te sommes si reconnaissants de nous avoir appris tes voies. De savoir que notre jour de remise des diplômes approche de nous lorsque nous nous réunirons pour les réunions de la résurrection, où nous porterons notre toque et notre toge. Ta couronne de gloire, et notre toge sera là où nous nous vêtirons de ta parole. Nous avons non seulement un jour de remise des diplômes qui vient, mais aussi un mariage où nous serons vêtus de la robe de noces de ta parole. Car l'esprit et l'épouse disent vient. Alors Père, aie-nous réussi à l'épreuve et à monter plus haut au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.